Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Des conditions de travail qui se dégradent dans tous les domaines, au dire de l'inspection du travail, de plus en plus sollicitée par les salariés. La pénibilité au travail n'est plus simplement physique, elle est rattrapée aujourd'hui par la dégradation des situations de plus en plus complexes qui mettent à mal ceux qui s'impliquent professionnellement jusqu'au bout. La problématique de l'implication dans un travail qui devient un jour son pire ennemi et où la souffrance impacte en profondeur l'estime de soi, la confiance en soi, où la reconnaissance, la cohérence, le sens ne sont plus au rendez-vous, où le corps et le psychisme finissent par lâcher. Alors, quelle solution face à un travail devenu stérile, vide de sens, normé, résister, continuer de se battre pour soi et les autres, fuir, élément d'analyse et peut-être de réponse, aujourd'hui dans Quête de sens avec mes deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Mig. Bonjour Catherine Mig.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, clinicienne du travail, consultante RH avec ses consultations cliniques et cet accompagnement managérial que vous menez. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est déjà paru en 2015 qui s'intitulait « Les habits neufs du management » et vous venez de publier, alors enfin, d'ailleurs il va sortir le 2 mai prochain, donc c'est une, j'allais dire, une première dont on parle aujourd'hui. Un livre qui fera sans doute référence et qui s'intitule J'ai mal au travail, parcours en quête de sens aux éditions François Bourin. Un livre avec un sous-titre prédestiné pour cette émission.
Oui.
Catherine Mig, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau dans l'émission Christelle Perrault. Bonjour Christelle.
Bonjour Sophie.
Bienvenue. Vous êtes fondatrice et directrice d'Axim, conseil en relations humaines en entreprise. Alors vous avez fait un burn-out en 2001 et suite à ça, vous œuvrez aujourd'hui pour les autres. Vous vous définissez comme artiste en relations humaines. C'est très beau, pour accompagner la résilience dans l'environnement professionnel, dans un accompagnement individuel ou collectif sur mesure, et notamment par des conférences, spectacles au théâtre et en entreprise. Et votre mission, vous la définissez ainsi, accompagner, aider chacun, chacune à devenir acteur, actrice, auteur et artiste de sa vie professionnelle. Tout un programme. Catherine Mig, quand on consulte l'inspection du travail, on a l'impression que la situation des salariés et autres statuts professionnels ne s'arrange pas. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de souffrance au travail.
Je confirme. Bon, juste une petite aparté, l'inspection du travail est quand même en souffrance aussi.
En souffrance aussi.
C'est quand même un métier qui est, enfin, le nombre d'agents disponibles est quand même en diminution et ils sont très très mal. Donc on n'a pas beaucoup d'appui de ce côté-là. Mais je confirme qu'effectivement la souffrance au travail, ou en tout cas, je vais dire la souffrance pathogène au travail, en rapport avec le titre de mon livre qui est J'ai mal au travail. Nous disons, cliniciens du travail, que le travail fait souffrir parce que c'est difficile de travailler, on n'a pas les solutions, il faut être imaginatif, il faut mettre beaucoup de soi-même, on n'a pas forcément au fur et à mesure, il faut mettre beaucoup de soi-même et ça, quelquefois, c'est pas facile. Mais quand la souffrance devient pathogène, c'est-à-dire qu'elle fait tomber malade, et c'est là qu'il y a un souci, et effectivement, on constate une explosion de ces pathologies qui sont psychiques, mais qui sont aussi somatiques. On peut tomber très gravement malade.
Et l'originalité, effectivement, de votre ouvrage, c'est que vous donnez à lire, à comprendre, à analyser ce que vous faites. En tout cas, ce sont des personnes que vous avez suivies, ce sont des vraies situations professionnelles et personnelles.
En fait, l'idée de ce livre est venue parce que je constatais chez les médecins généralistes une incompréhension. Les gens ont un travail, mais pourquoi ils tombent malades du travail? Et une difficulté à prendre en charge cette pathologie. Et du côté des psychologues aussi, et psychiatres, ou soignants en général, ils connaissent mal le monde de l'entreprise et le monde du travail en général. Et donc, ils vont systématiquement chercher du côté de l'histoire personnelle et de la structure de personnalité. Et finalement, ils abandonnent le patient sur le traumatisme vécu au travail. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire passer quelques informations. Et en même temps, les gens me disent qu'ils ne veulent plus lire de théorie. Donc, je me suis dit, bon, la seule manière, c'est la clinique. La clinique, c'est la vie.
Et là, c'est bien concret. Hein.
Oui.
de tout ce qui est le ressenti, les situations, voilà. Heure par heure, les relations. Enfin, on va essayer de décrypter tout ça, évidemment, avec vous. Christelle Perrault, alors, cette façon aujourd'hui de mener une mission par rapport à ce que vous avez vécu, vous en faites presque un devoir, mais c'est devenu une passion, en ayant quand même traversé ces fameuses épreuves professionnelles, oui, avec le burn-out.
Oui, c'est devenu finalement, oui, vous le dites, un devoir ou quelque chose vers lequel je me sens d'aller dans cette transmission, comme une raison d'être à partager, puisque mon parcours n'est pas du tout par la clinique, il est par l'expérience. Et aujourd'hui, je me rencontre et c'est plutôt l'extérieur, le public qui vient me chercher finalement, hein, et qui m'amène à devoir me mettre en scène et à parler et à partager, puisque ce sont des sujets intimes et difficiles dans une société où il est plus facile de mettre au monde ce qui fonctionne bien, ce qui est positif, ce qui brille. Je vais mettre en scène ce qui est compliqué, ce qui est difficile.
Et dans vos spectacles, parce que j'ai eu la chance de participer à l'un de vos spectacles, les gens se sentent touchés au cœur par ce que vous dites.
Oui, c'est ça. En fait, quand je parle de moi, je parle d'eux. C'est ça dont j'ai pris conscience au fil du temps et de mes prises de parole et du spectacle. Puisqu'ensuite, je les invite aussi à nous retrouver dans un bistrot après le spectacle pour partager. Et finalement, pendant une heure, j'ai mis en scène l'histoire d'une femme qui est la mienne. Et ils viennent me parler ensuite d'eux. Et j'ai compris que j'étais un médium, juste un canal pour mettre des mots sur les mots MAUX, libérer la parole et se rencontrer. Et dans une société, il me semble, qui est de plus en plus virtuelle, aujourd'hui, je crois que nous sommes des êtres incarnés, des êtres de chair. Nous avons besoin de nous toucher, de nous embrasser. Et là, le théâtre permet cette rencontre. Et ça fait beaucoup de bien.
Catherine Migue.
Enfin, oui, je voudrais réagir sur deux choses. D'abord, je ne pense pas que c'est si éloigné, l'expérience et la clinique. Vous dites que ce n'est pas du tout la clinique.
Oui,
la clinique est faite
d'expérience. Oui,
c'est ouais, complètement la vie des gens, en fait, qui vont explorer et qui vont questionner dans un travail clinique. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout en opposition. Hein. En tout cas, ça se tricote de manière très forte, en tout cas. Et je voudrais réagir aussi juste sur la dernière chose que vous disiez, dans un monde très virtuel et surtout très individualisé.
C'est ça aussi.
Tout cas, du côté de l'entreprise, je pense que c'est une des raisons de la souffrance au travail.
C'est qu'il n'y a pas de collectif.
C'est qu'on a des dispositifs qui sont tous pensés par rapport à l'individu, donc des primes individuelles, des objectifs individuels, alors qu'on ne peut pas être compétent seul. Donc on est dans un paradoxe avec des dispositifs qui sont finalement contre-productifs par rapport à la réalité de ce que moi j'appelle le travail réel, c'est-à-dire ce que les gens vivent vraiment à leur poste de travail.
D'ailleurs, dans votre livre, le titre que l'on retrouve, c'est « À l'écoute du travail ».
Oui, tout à fait.
C'est ça. J'aime bien le travail, mais vous êtes à l'écoute du travail, à l'écoute de ces personnes qui vivent des situations, en fin de compte, où à un moment donné, ce sont des personnes, et là on retrouve aussi l'expérience de Christelle Perrault, ce sont des personnes vraiment investies dans leur travail, qui aiment leur travail, qui sont complètement impliquées.
Oui. Mais ça, c'est quelque chose d'incompréhensible pour les patients qui viennent me voir. C'est les meilleurs qui chutent. Ceux qui sont en touriste dans le travail, ils font pas de burn-out, ils tombent pas malades du travail. Et donc, la première chose que je leur dis, écoutez, c'est que vous êtes les meilleurs. Alors, ils sont au fond du trou quand ils arrivent, et quand ils entendent ça, ils se disent... Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Mais effectivement, je leur dis, c'est des ressources, en fait, que vous avez, donc on va pouvoir utiliser pour vous, justement, sortir de cette crise de vie dans laquelle vous êtes un peu coincé, on va dire.
Christelle Perrault, ce fut votre cas, de cet investissement, de cette implication dans votre travail?
Oui, ce fut mon cas et en même temps, il était à la fois dans le travail et aussi dans la vie familiale, puisque j'avais à l'époque trois filles qui étaient nées en 2 ans et demi, avec des jumelles de 3 ans et demi et une de 1 an. Donc Catherine, qui est aussi mère de famille, sait de quoi je parle, famille nombreuse. Ouais. Je pense que c'est une nature, il me semble, à se surengager. Donc mon surengagement, il était vrai dans toutes les sphères. Et je mets plutôt ma chute sur la conjugaison d'une vie plurielle compliquée à gérer et d'un équilibre difficile à trouver dans ce moment-là. Mmh. Mais c'est vrai que ça touche la question de l'identité et de la suridentification au travail. Mmh. Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur la relation au travail, sur justement pour se désidentifier de son travail et réussir à poser un cadre, des limites qui permettent de respecter ses besoins fondamentaux et d'éviter de se retrouver malade, quelle que soit la pathologie qu'on va développer.
Catherine Meek, vous en parlez évidemment bien précisément, cette identité aussi que l'on a au travail. Est-ce que notre identité, notre personnalité est définie par notre travail ?
Partiellement. C'est-à-dire, moi je dis souvent aux patients, c'est un puzzle. Hein, et on a différentes facettes d'identité et le travail en fait partie. En psychodynamique du travail, on a l'habitude de dire qu'on marche sur deux pieds. La relation affective, du côté de la relation amoureuse ou familiale, amicale, et puis la relation au travail qui est, on va dire, le versant social de notre existence au monde, de notre rapport au monde. Et donc il faut que les deux fonctionne, enfin marche.
On n'a pas trop poussé ça, justement, où on s'est dit on ne peut se réaliser socialement que par le travail. C'est dans le travail qu'on va apporter justement sa part à la société, etc., où on va se réaliser socialement. Il n'y a pas que le travail.
Alors ça touche la question de la reconnaissance. C'est-à-dire, où est-ce que je vais chercher la reconnaissance ? Est-ce que je vais chercher la reconnaissance, on va dire, dans les relations intimes, dans les relations, ou est-ce que j'ai besoin d'une reconnaissance sur un champ public et social ? Et effectivement, le travail sur son versant social va donner une place dans la société, c'est-à-dire une contribution au vivre ensemble. Et ce qui est ce sentiment d'être utile, enfin, c'est pas seulement un sentiment d'ailleurs, c'est une réalité aussi, d'être utile quand vous demandez à un adolescent à 15 ans qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, la première réponse, il va vous dire je veux être utile. Quand vous demandez à quelqu'un qui est en recherche de travail ou en recherche de mobilité ou de reclassement, qu'est-ce que vous voulez faire, je veux être utile.
Et les gens
Il y a plein de solutions. Mais en tout cas les gens tombent malades d'avoir perdu le sens de l'utilité de pourquoi je me lève le matin, à quoi ça sert.
Le sens, quoi.
Le sens.
Voilà. En quête de sens.
D'où le parcours en quête de sens. Mais on le voit bien quand on écoute, quand on lit l'histoire d'Héloïse, hein, qui dit que son travail, c'est le seul lieu où elle ressent de l'estime, en fait, elle peut trouver de l'estime d'elle-même, alors que c'est cette estime qui va se dégrader.
Mais alors, Catherine, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Quand vous parlez de ces deux pieds, est-ce qu'on ne pourrait pas en rajouter un troisième ? Moi, j'ai envie d'en rajouter un troisième, parce qu'à un moment aussi dans ma vie, plus tard, après l'effondrement de ma vie professionnelle, c'est aussi ma vie personnelle qui s'est effondrée par un divorce. Et du coup, ce que j'ai vécu comme chemin, c'était de réussir à trouver ce troisième pied en moi pour apprendre à m'aimer, à trouver cette reconnaissance déjà vis-à-vis de moi-même. Et je le vois aussi aujourd'hui dans tous ces accompagnements que je fais, c'est comment j'aide aussi ces hommes et ces femmes à développer cet amour de soi qui permet l'amour de l'autre, mais dans une juste distance pour éviter d'être trop dépendant. Je ne dis pas que nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin des autres, mais comment notre vie ne repose pas sur la vie de couple, la vie de maman, parce que c'est pareil, des mamans qui ne sont pas particulièrement engagées dans la vie professionnelle, très engagées, surengagées dans la vie personnelle, peuvent se retrouver dans une situation aussi difficile. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose, mais peut-être que vous en parlez.
Moi je dirais pas un troisième pied, parce que pour moi c'est le socle des deux pieds. Je veux dire, on va dire que c'est les chaussures des deux pieds. Enfin, c'est idiot comme.
D'accord. Et vous êtes au centre.
C'est le voilà, fond. Exactement.
D'accord. Donc c'est ça, ce troisième.
Voilà. Je pourrais pas le mettre sur le même. C'est pas un investissement de la même façon. C'est le socle indispensable. Sinon ça peut pas marcher. Quoi.
Mais on voit bien qu'à un moment donné il y a une inadéquation. D'où le non-sens qui survient la plupart du temps. Il y a une inadéquation entre ce qu'on attend du travail, l'investissement, donc l'implication, comme on le disait tout à l'heure, et puis l'entreprise qui est en face et qui est complètement à côté, enfin, entre ses attentes individuelles, son engagement individuel, et puis une stratégie qui nous paraît complètement absurde, non sans sens, en fin de compte.
Mais parce que cette stratégie, elle est pensée par des consultants, par des dirigeants qui sont déconnectés de la réalité de ce que les gens vivent. Moi, je plaide beaucoup...
De l'être humain, sont déconnectés.
Sont dans la stratégie.
Et puis non, du travail réel.
Du travail réel.
Du travail réel. J'insiste beaucoup, on en a parlé un peu avec Christelle juste avant. La question, c'est que du coup, on va penser des procédures, on va penser des conduites de changement, on va penser des stratégies, mais on a juste oublié que éventuellement, ça va gêner les gens pour faire le travail de base qu'on leur demande sur leur poste de travail. Et on ne va pas y voir, en fait. Il y a une espèce de coupure, de rupture entre les têtes pensantes, avec aussi tous ces consultants qui sont payés pour penser à la place des gens. Parce que moi, je pense que si vous demandez aux salariés de quoi ils ont besoin pour bien travailler, ils sauront vous dire. Mm-hmm. Il n'y a pas besoin d'avoir...
S'il y avait cette coopération et complètement. Ce collectif
Tout
dont
à fait.
Vous parlez dans
et cette écoute des managers, c'est-à-dire de penser que le savoir, il est à la base chez les gens. Alors ça, c'est aussi parce que...
Ils ne sont pas idiots.
Non, pas du tout. Et surtout, qui ont envie de bien travailler. Parce que ça, c'est aussi un biais, c'est qu'on pense qu'il faut stimuler les gens pour qu'ils fassent leur boulot. Mais c'est complètement stupide. Si vous mettez des gens qui sont formés, hein, okay, avec des ressources pour travailler, et que vous les reconnaissez, ils vont faire le meilleur boulot. Parce que c'est indispensable en termes de santé mentale. Ils ont envie de rentrer chez eux, d'être fiers de ce qu'ils ont fait, de pouvoir en parler autour d'eux. Donc, ce n'est pas la peine de les fliquer. Il faut juste leur demander de quoi ils ont besoin pour bien travailler. Et ils sauront vous le dire. Et ça se passera le mieux possible. On sera dans la performance.
Allez, n'hésitez pas à réagir, évidemment, sur cette thématique de l'émission qui s'intitule « Bon, l'être humain est-il fait pour travailler ?» Mais on parle évidemment du sens aujourd'hui que l'on a dans notre travail avec Catherine Mig et Christelle Perrault. Restez bien avec nous. On se retrouve juste après cette petite pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Le monde vu de Rome, le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican.
L'armée américaine n'envisage pas d'intensifier les raids aériens. Ce mercredi, le pape a débuté sa catéchèse en revenant sur le créneau.
Minuit 30, l'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours, sur Radio Notre-Dame.
Je suis née dans la peau. Sans aucun nom.
Bernadette de Lourdes, l'album du spectacle musical.
Que rester à chemin.
Découvrez une histoire bouleversante d'humanité.
Madame.
Interprétée par Emma et les artistes du spectacle Bernadette de Lourdes.
Vos mots d'amour, vous qui un jour m'a fait salut.
Bernadette de Lourdes, l'album du spectacle musical.
Et vous salue.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical avec Edith Walter, tous les vendredis à 20h45 sur Radio Notre-Dame.
En quête de sens, Sophie Noaille.
Et ce n'est pas à souhaiter à tous ceux qui nous écoutent que le travail, ou en tout cas les conditions de travail, deviennent un jour le pire ennemi, où la souffrance impacte en profondeur l'estime de soi, la confiance en soi, la reconnaissance, où la connaissance, la cohérence, le sens ne sont plus au rendez-vous et le corps et le psychisme finissent par lâcher. On en parle aujourd'hui avec Catherine Mig, psychanalyste, clinicienne du travail, qui publie cet ouvrage qui va sortir le 2 mai prochain, « J'ai mal au travail, parcours en quête de sens » aux éditions François Bourin. Christelle Perrault, fondatrice et directrice d'Axim, qui a cette mission aujourd'hui d'accompagner, aider chacun, chacune à devenir acteur, actrice, auteur et artiste de sa vie professionnelle. Christelle Perrault, on voit que c'est un travail de longue haleine que de faire changer, de faire bouger nos références par rapport au travail. Et notre façon de l'envisager aujourd'hui, que l'on soit d'ailleurs directeur, manager ou salarié.
Oui, parce que il me semble que dès notre plus petite enfance, le travail est mis au cœur de notre vie. On a à peine 3 ans qu'on nous emmène déjà à l'école. Et déjà, la première chose à peine levée, à peine le petit déjeuner avalé, c'est d'aller à l'école. Et je crois que, et quand on voit encore le système scolaire aujourd'hui tel qu'il est conçu, la priorité est tournée vers apprendre des matières.
Qu'est-ce qu'on va faire plus tard.
Exactement, pour savoir. Et l'enfant, à 3 ans, il est déjà lancé dans cette course de « tu es en train de préparer ton avenir professionnel, ta carrière, etc. » Et je crois que nous avons réellement à faire un travail de changement, de cadre de référence et laisser tomber certaines croyances fortement ancrées encore dans notre culture qui génèrent ces difficultés dans notre relation au travail. C'est sûr que le travail a comme origine cet instrument de torture, Tripalium. Et donc ça reste, il me semble, Catherine, vous me direz ce que vous en pensez, mais fortement ancré dans un inconscient collectif qui fait que de toute façon, pour réussir, il faut en baver, il faut travailler dur.
Et oui, et puis c'est normal. Et puis le travail ça. N'est pas un lieu de plaisir ou un lieu de bonheur ou de bien-être,
exactement.
Comme on voudrait le définir aujourd'hui.
Oui, c'est quand même assez récent, ces notions de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Enfin, ça fait quand même assez peu d'années qu'on en parle. Alors, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de com. Je ne suis pas sûre que ce soit encore complètement incarné. Mais déjà, le fait d'en parler est plutôt un bon signal. Maintenant, je crois que nous avons effectivement à revoir, à laisser tomber certaines croyances et penser que oui, nous pouvons travailler. Et la première personne, je crois, sur laquelle nous devons travailler, et c'est là où nous avons à travailler, c'est nous. D'abord nous-mêmes.
Mm-hmm. C'est ce que vous disent les personnes qui assistent à votre spectacle, Christelle Perrault, quand elles viennent vous trouver après. Elles disent, bon, bah oui, moi je me suis retrouvée dans ce que vous avez dit sur scène.
Oui, c'est ce qu'elles viennent.
Je crois que finalement, il y a des choses à changer.
Oui, et il y en a qui changent. En fait, les plus beaux retours que j'ai, c'est ceux qui changent de vie. Alors, le spectacle est, un déclencheur de quelque chose qui est déjà sous-jacent.
On réveille quelque chose, il y a un déclic qui
se passe.
Ça.
Mais là, récemment, une de mes clientes, DRH dans la finance, a décidé de tout vendre, de quitter, de partir faire un tour du monde avec ses 3 enfants et son mari. Une autre en couple, suite au spectacle avec son mari, revoit leur équilibre de vie autrement. Une autre a décidé de changer de vie professionnelle. Donc, la question du sens se révèle. Alors peut-être que l'être humain a besoin d'aller jusqu'à cette souffrance pathogène pour arriver à se reposer cette question du sens et cette question du choix. Maintenant, c'est vrai que ça lui permet de se reposer la question du travail et de le remettre dans une autre perspective au cœur de sa vie.
J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez sur justement le questionnement sur le travail depuis la toute petite enfance, mais bon, l'adolescence en particulier. Je crois que il y a un déficit énorme de questionnement sur qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie en fait. Et on se rend compte que par exemple des enfants qui ont un parcours sans faute, ils arrivent. Moi j'en ai rencontré, j'en ai aussi en consultation, des parcours sans faute. Et puis tout d'un coup ils se retrouvent, ils ont réussi tous les concours, etc. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ce questionnement, il n'y a pas de place. Il n'a pas eu lieu. Et il n'y a pas de à la fois de temps et d'espace où il peut être posé. Et ça, je pense que c'est un vrai manque dans notre, on va dire, système éducatif au sens très large.
De s'arrêter, de dire,
pouvoir se poser ces questions-là. Voilà. Et je vais faire juste un petit aparté, mais je lisais récemment que dans les nouveaux programmes de philosophie qui vont sortir, il n'y a plus rien sur le travail et il n'y a plus rien sur l'inconscient. Donc pour moi, ça me questionne évidemment beaucoup que même pour les cours de philo qui sont quand même très, très, enfin il n'y en a pas beaucoup, on ne puisse même pas se poser la question de ce que c'est que le travail et comment je m'investis ou comment j'aimerais m'investir.
On a parlé tout à l'heure d'un questionnement. Est-ce que le travail a un sens moral? Est-ce qu'on peut lui donner un sens moral? Parce qu'on voit dans toute cette organisation, désorganisation de tout ce que on va nous imposer, ces conditions qui changent, ces nouvelles stratégies qui se mettent en place. Est-ce qu'on essaye de retrouver quand même un sens moral, alors que de l'autre côté, on est plus dans l'isolement, la solitude, oui. Plus le collectif qu'on disait tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure.
Moi, je vais plutôt parler d'éthique que de morale. Alors ça, c'est des options, on va dire, scientifiques. Tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur cette question. Et moi, je défends très fortement que les valeurs sont au cœur de la qualité du travail. Et que, alors, vous l'avez lu, on parle beaucoup de souffrance éthique quand les salariés ou les travailleurs se retrouvent en conflit de valeurs. Et ça, c'est extrêmement destructeur au niveau subjectif. Parce que pourquoi ? Parce que ça touche l'idéal de soi et ce qui fait, on va dire, le squelette de la personne humaine.
L'estime de soi.
Et puis aussi l'idéal, donc du côté de la promesse. Et les gens s'effondrent quand ils sont dans des situations où ils ne peuvent plus faire un travail de qualité. Et le travail de qualité, il est lié justement aux valeurs qui vont se déployer dans ce travail que je vais faire.
C'est la question de l'équation personnelle, hein, aussi, c'est ça.
Alors, équation personnelle et aussi par rapport à l'environnement dans lequel vous allez travailler. Parce que les entreprises ont des grandes chartes de management, défendent des grandes valeurs, affichent, ont des stratégies de communication déploient des tas de stratégies de communication. Et souvent, les faits sont en contradiction avec ce qui est affiché.
Une incohérence
totale. Et donc, du coup, les gens perdent confiance dans leur entreprise et dans l'environnement de travail dans lequel ils fonctionnent.
Ce sont eux, à un moment donné, qu'on va désigner comme finalement problématiques.
Alors ça, c'est une autre difficulté, c'est que... c'était une avancée qu'on parle évidemment de la souffrance au travail et des risques psychosociaux. Mais la réglementation ou les lois ont attrapé, on va dire, cette question-là du côté de l'individu. C'est-à-dire que on va faire des formations à la résistance au stress, on va essayer de repérer à certains moments les salariés qui sont fragiles, etc. Et alors que la souffrance, enfin quand elle devient pathogène, elle est dans l'articulation entre une personne humaine et une organisation de travail et un management. On ne peut pas regarder seulement un côté du problème sans traiter l'autre aussi. Et quand on parle, je réagis aussi à la qualité de vie au travail, mais je dis, mais ce n'est pas la qualité de vie au travail qui est importante. La question, c'est la qualité du travail. L'entreprise, elle doit à ses employés, à ses salariés, de leur mettre des ressources, des leviers pour pouvoir faire un travail de qualité. Et du coup, la qualité de l'ambiance et la qualité de vie au travail va être déduite de l'environnement.
Elle découlera de cet environnement.
À partir du moment où on arrive à faire un travail de qualité ensemble.
Christelle Perrault.
Pour moi, ce que vous soulevez est fondamental dans le vivre ensemble. Et ça où je travaille de plus en plus dans l'entreprise à cela. Et c'est sur le groupe. C'est comment j'existe, comment je réussis à m'affirmer, à respecter mes valeurs avec les autres. Nous sommes des animaux sociaux et nous sommes amenés à travailler avec les autres. L'entreprise est une communauté et aujourd'hui, pour ceux qui travaillent en entreprise, la plus grande communauté dans laquelle ils sont.
Christelle Perrault, on voit que le collectif, et Catherine Ming le décrit très bien dans son livre, le collectif n'existe plus ou pas. Ou on fait en sorte qu'il n'existe pas.
Nous avons à travailler dessus. C'est très systémique. Oui. Et c'est comment nous amenons effectivement l'entreprise à travailler sur ce collectif. Mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe entre des objectifs individuels, des évaluations individuelles. Enfin voilà, toute cette objectivation qui est faite sur l'individu et qui finalement rivalise avec le collectif qui n'est pas forcément pris en considération.
Je voudrais juste rebondir par rapport à la question des valeurs, hein, éthique. La question de la coopération, elle est centrale. Vous pouvez avoir les meilleures compétences dans une entreprise. Si les gens ne savent pas travailler ensemble, ça ne produira rien. Donc pour moi, c'est vraiment le concept central de la question du travail. Et le collectif, parce que c'est aussi la meilleure prévention contre tous les risques psychosociaux. Vous n'êtes pas en surcharge quand vous pouvez vous entraider. Vous n'êtes pas en déficit de reconnaissance.
Mais Catherine Ming, les réalités, et elles sont décrites dans certains des cas que vous citez, on fait en sorte que le collectif n'existe pas non plus, puisque quand il y a quelqu'un qui va avoir des difficultés dans un travail, finalement, on ne veut pas s'en mêler. Il y a une espèce de lâcheté, une espèce d'irresponsabilité volontaire. Voilà, on ne se mêle pas à ces gens-là.
Je vais juste terminer sur ce que je voulais dire précédemment, parce que au sein de la coopération, de plus en plus j'avance dans ma réflexion, plus je mets la question de l'ajustement des critères de qualité dans un collectif. C'est-à-dire, si on est tous d'accord sur ce que c'est un travail de qualité, on arrivera à travailler ensemble. Et souvent, ça dysfonctionne parce que le management et les collaborateurs entre eux n'ont pas ne partagent pas la même vision des critères de qualité. C'est là qu'on retouche la question des valeurs. Je fais une petite incise, mais je pense que c'est important de mettre...
Oui, et de créer du coup des espaces. On revient à ces espaces qui n'existent pas dans toute la partie école, université, dans l'entreprise, pour favoriser ces rencontres et parler de ce pourquoi on est là ensemble.
Du travail réel.
Du travail réel.
Exactement.
Et à ce moment-là, si ces espaces existent, nous créons du lien, chacun se sent reconnu, et les problèmes disparaissent. Parce que, vous l'avez dit si justement tout à l'heure, sur cette question de la reconnaissance, la reconnaissance est fondamentale, elle est un moteur. Nous avons tous besoin de nous sentir reconnus. Et à partir du moment où je vous écoute, où je vous demande votre avis, où il y a un espace où chacun peut prendre la parole, chacun se sent reconnu, se sent en tant qu'adulte.
C'est une expérience humaine extraordinaire de vivre.
C'est le propre de la relation humaine, c'est le sens de la relation humaine.
De pouvoir vivre. On en parlait tout à l'heure, Christelle me partageait l'expérience de son spectacle. Je veux dire, produire ensemble, c'est être quelque chose ensemble, être plus que la somme des individualités. C'est une expérience absolument unique. Quand les gens en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux.
Oui.
C'est assez rare, mais quand ça se passe, c'est vraiment une expérience humaine unique.
Et c'est là où l'entreprise doit se réinventer et se transformer, sortir de modèles descendants. Parce que je crois que dans cet environnement, notre environnement qui est en profonde mutation, c'est au cœur, l'humain est au cœur de l'entreprise de demain. Je dis c'est le cœur et le poumon de l'entreprise de demain. Et c'est en allant chercher ces artistes. Pour moi, il y a chez chacun d'entre nous une part artistique qui peut s'exprimer sur des tas de volets différents. Mais je mets dans l'artiste le créateur. Et je crois que nous sommes des êtres nés pour être créateurs. Pas uniquement d'enfants. Bien au-delà de quelque chose qui nous dépasse, qui peut s'inscrire dans l'éternité.
Au-delà de simples exécutants.
Exactement. Et c'est l'entreprise, grâce à ce collectif, peut devenir créatrice de valeur, de richesse, dans le bon sens du terme. Grâce à la création de ce collectif, de cette équipe qui peut être écoutée à la fois dans ce qui fait chacun la singularité des individus qui la composent et le fait d'être ensemble qui va créer quelque chose d'autre, de différent, qui va dépasser l'individu.
Mais on voit combien c'est difficile, Catherine Mick, que ce soit dans des grandes structures, des grands groupes internationaux ou même des plus petites entreprises où finalement le collectif n'existe pas. Et il faut et cette solitude, cet isolement des salariés, elle est très... Elle impacte sur la santé psychique des salariés.
Oui, je crois que l'isolement est un vrai souci dans nos entreprises. Et les gens ont peur. Je voudrais aussi dire un mot sur la peur, parce que vous disiez, mais pourquoi ça se...
Vous parlez de l'indifférence et de la lâcheté des autres.
Oui,
hein.
et les gens ont peur, en fait, je l'explique dans le livre sur certaines situations. Quand un patient arrive en burn-out et évidemment, dans un premier temps, on qualifie ce qui s'est passé, etc. Mais quand il découvre qu'il a collaboré à un système délétère, parce que le burn-out, il n'arrive pas tout de suite. Les gens essayent de tenir pendant des mois et des mois, de résister. Et tout d'un coup, évidemment, le corps lâche et il s'effondre. Et quand on commence à revisiter l'histoire et que tout d'un coup, ils se disent « Oui, j'ai aussi collaboré. » Et ça, c'est toujours un épisode, un moment très sensible dans la prise en charge clinique parce qu'ils peuvent tomber encore plus malades et décompenser de manière encore plus grave. Parce que tout le monde collabore, plus ou moins, quand on dit oui à des systèmes qui humilient, qui mettent les gens à genoux. Et donc ça, c'est très compliqué. Et en fait, on se rend compte que la peur... Et partout, alors évidemment c'est renforcé par le système très individualisé de gestion de la performance, mais les gens ont peur de parler, les gens ont peur de dire non, les gens ont peur de s'associer, les gens... Enfin, c'est terrible.
Qu'est-ce qui explique cette peur, en final, en profondeur? La peur de perdre son travail?
Ah non, c'est pas la peur de faire son travail.
De perdre son travail.
Oui, de perdre son travail, oui. Ça, certainement, l'environnement de travail... Les gens... Enfin, l'environnement est devenu quand même beaucoup plus anxiogène aussi. Et puis, le système des objectifs, moi, je pensais plutôt dans mon premier livre sur les Abhinavs du management, mais je dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'objectifs et des objectifs qui sont vécus dans la pression? Si on... Je le disais tout à l'heure, si vous donnez les moyens aux gens de travailler, de faire leur travail, il n'y a pas besoin de leur mettre des objectifs. Ils feront de façon le mieux possible. Donc, c'est une pression qui ne sert à rien, en fait, qu'à leur faire peur et à les empêcher de faire calmement leur travail et le mieux possible.
Allez, on va réfléchir à tout ça. On écoute Michel Jonas. Restez bien avec nous et réagissez sur les réseaux sociaux et sur la page de l'émission sur radionotredame.com. On se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame.
Comme le carbone en a pour l'oxygène, comme la cape en a pour le barbeau, j'ai de la sympathie pour la latino-américaine, j'ai de l'affinité pour des affinados. Je n'ai rien d'elle dans mon sang, dans mes gènes, mais cette fois-ci je me laisse aller. Tant pis pour les puristes de la latino-américaine, et tant pis si c'est pas ma ville, pas ma contrée. Ça vous transporte en altitude, tout près des corbeaux, ça m'emporte en Amérique du Sud. Sans prendre un paquebot, ça vous fait traverser les mers. Loin du pont Mirabeau, ça donne l'impression d'être en l'air, de quitter ses sabots. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Mais va piano, va piano, va piano, va. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça.
Allez,
piano, va piano, va piano, va. C'est moi qui brûle et c'est elle qui m'allume. Pauvre chanteur un peu caveau, il a le cœur en cendre, il a l'âme qui se consume, il a de l'affinité pour des affinados. Bye bye la ville, bye bye la voix de ma scène, bye bye Sylvie, bye Melinda. Je m'en vais rejoindre latino-américaine, je m'en vais dans le pays de la Somalie ou Manoba. Des corbeaux, ça m'emporte en Amérique du Sud. Sans prendre un paquebot, ça vous fait traverser les mers. Loin du pont Mirabeau, ça donne l'impression d'être en l'air, de quitter ses sabots. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Mais va piano, va piano, va piano, va. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Piano va, piano va, piano va. Mais ça c'est beau ça, ça c'est beau ça, ça c'est beau ça. Va piano va, piano va, piano va. C'est beau ça, beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça.
La bossa, Michel Jonas, ça fait du bien un petit peu de musique comme ça pour alléger un peu la discussion et nous permettre de réfléchir.
On est pleine d'espoir puisqu'on a des solutions quand même pour sortir de l'impasse.
Catherine Mig avec ce bel ouvrage qui s'intitule « J'ai mal au travail, parcours en quête de sens » aux éditions François Bourin, Christelle Perrault, fondatrice et directrice d'Axime. Avec cette bonne nouvelle d'ailleurs que votre conférence spectacle, le titre m'échappe.
Réussir son burn-out
après un burn-out, bien sûr, évidemment, mais que vous allez...
L'histoire d'une renaissance et que je vais jouer au théâtre, au Festival d'Avignon, au Théâtre de l'Observance, tous les jours du 5 au 28 juillet. Donc pour partager, continuer à essaimer. Réussir son burn-out.
Une vraie mission.
Une vraie mission, oui.
Une vraie mission. C'est ce qui nous manque peut-être en entreprise, Catherine Mig. Oui. La mission plutôt que
les
objectifs.
Je suis bien d'accord parce que dans la mission, il y a une finalité. Il y a un sens et je crois que l'être humain a besoin d'horizon. Il a besoin de voir un
on
peu,
l'a dit
un
là,
peu
de
loin.
Se sentir utile, valorisé.
Voilà. Et puis de s'inscrire dans une temporalité. Je pense que la question de la gestion du temps en entreprise est un vrai souci aussi. On est sur du court terme tout le temps, dans l'urgence tout le temps. Moi, je dis à mes patients ou aux managers avec lesquels je travaille, je dis mais la seule urgence, c'est la mort. Le reste, c'est des urgences qu'on se crée et elles sont très relatives.
Oui, mais quand vous avez ces entreprises c'est ce que me disait un des responsables de l'inspection du travail avec qui j'ai discuté. Il me disait, mais maintenant, de toute façon, c'est créer de la valeur. L'objectif d'une entreprise, c'est créer de la valeur.
Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. La question, c'est est-ce qu'on crée de la valeur dans l'immédiateté, c'est-à-dire le capitalisme financier, c'est quand même ça. On veut du cash le plus vite possible. Ou est-ce que la valeur, on considère que c'est aussi la valeur des gens, la valeur humaine, ce que moi j'appelle l'immatériel, la valeur immatérielle, c'est-à-dire la compétence, l'expérience. Et là, forcément, on est sur une autre temporalité. Parce que quand vous embauchez un salarié, il faut le temps qu'il prenne ses marques, qu'il se développe. Et évidemment, vous travaillez pour le moyen et pour le long terme. On n'est pas du tout sur le même niveau de temporalité.
Mmh, ça, je pense on a l'impression que ce temps... Ça, vous le dites, Catherine Mig, mais je pose la question à Christelle Perrault. On a l'impression que ce temps libre, ce temps à peut-être ne rien faire, est un temps vide.
Oui.
C'est du temps perdu.
Oui, alors que c'est un temps extrêmement fécond. Et je crois que nous avons à apprendre, réapprendre peut-être, à vivre avec un autre espace-temps. Et pour ça, la nature est fondamentale. Il s'agit de vivre avec les saisons. Nous sommes des êtres vivants profondément reliés à cette nature et regarder cette nature, vivre au rythme de cette nature, ce qui est très compliqué au cœur de la cité, dans nos villes où il reste quelques arbres, exactement, et où on voit à peine le ciel, à peine la lune, de retrouver ce rythme qui permet de s'écouter et de vivre aussi à son rythme, à un autre rythme, qui est très difficile à aujourd'hui... mettre en relation avec le rythme imposé par l'entreprise. Et je le disais, mais depuis qu'on est tout petit, on nous met dans un rythme qui n'est pas notre rythme. Et retrouver son rythme, ça demande de prendre de la distance par rapport à l'entreprise et de s'inscrire dans d'autres rythmes. Alors oui, ça demande une discipline personnelle forte. C'est comment, dans cet environnement, je réussis à retrouver du temps pour du rien, pour moi, pour écouter, ressentir l'impact du monde, des autres, sur moi, faire des choix, savoir dire non, poser des limites. Je crois que beaucoup de managers, de dirigeants sont capables d'entendre des non. Mais la plupart du temps, dans les personnes que je rencontre, ces non ne sont pas suffisamment incarnés, habités, parce que ces personnes n'ont pas pris le temps de définir,
ou elles
de
ont
redéfinir.
Peur.
Oui, et elles ont peur. Quels sont leurs besoins et comment elles pourraient poser des limites, des cadres qui seraient plus en adéquation avec ce dont ils ont besoin.
On voit beaucoup, Catherine Mig, dans les cas que vous nous proposez, ces expériences, en tout cas, de vie au travail, de souffrance au travail, combien il est difficile aussi de réenvisager le retour au travail. Enfin, c'est presque encore plus anxiogène, quelque part, qu'envisager un retour après un arrêt, ou se dire, voilà, comment je vais envisager de nouveau ma vie au travail ?
Alors ça vient dès la première séance, dès le premier rendez-vous, parce que c'est effectivement des personnes qui ne sont jamais arrêtées. Donc pour eux, c'est une catastrophe. Et c'est l'impression que jamais ils pourront retourner au travail. Et le travail est devenu tellement anxiogène que c'est un vrai traumatisme pour eux. Ils passent à côté de la station de métro où ils sortaient pour aller au travail. Ils ne peuvent plus sortir à cette station. Tout ce qui se rapporte à l'entreprise est devenu anxiogène. Donc moi j'écoute ça avec beaucoup d'attention, mais il faut vraiment attendre d'avoir repris ses bases, de l'énergie, s'être ressourcé, avoir mis un peu à distance le traumatisme pour pouvoir envisager un scénario de sortie de crise. Il y a différents exemples dans le livre, mais quelquefois c'est simplement changer de posture soi-même, ne plus être dans la même posture, ça peut suffire. réfléchir. Et puis souvent aussi, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans l'environnement de travail. Alors ça peut être renégocier un rattachement managérial, ça peut être renégocier des missions, ça peut être, ou alors il faut quitter l'entreprise et envisager un autre projet. Enfin, il y a toutes sortes d'hypothèses. Mais ça prend du temps pour la construire. Mmh. Je voudrais juste réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Évidemment, je suis en phase avec tout ce que vous dites. Je crois que la question, c'est qu'on est beaucoup dans le faire et qu'on n'est plus dans l'être. Et je pense que, d'ailleurs, tous les termes qu'on emploie, on gère des gens. Mais non, on ne gère pas des gens. On accompagne.
On gère des dossiers, on gère des stats,
exactement,
on gère des numéros.
Mais on rencontre des gens, on les écoute, on les accompagne, mais on ne gère pas des gens. Mmh.
C'est la relation humaine qui fait défaut.
Tout à fait.
Le bien à être ensemble.
Oui,
et souvent, quand je dis ça, les gens me regardent, mais c'est quoi ? Parce que le bien-être, je trouve que ça fait un peu spa, pour ma part.
Oui, je suis d'accord.
Alors, moi, j'aime plutôt parler, accompagner le bien à être ensemble. Donc, j'arrive sans PowerPoint, sans ordinateur,
pareil, hein.
Sans rien. En fait, nous allons nous rencontrer.
C'est ça.
Nous écouter, partager. Et c'est ces moments-là que je vais créer dans l'entreprise pour les inviter, les aider à découvrir ce que c'est déjà. Et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de programme dans la journée qu'on ne va rien faire et perdre son temps.
Mais j'imagine, Christelle Perrault, que ça doit être déconcertant pour certains dirigeants d'entreprise.
Oui, et en même temps, certains me disent, de toute façon, moi, je ne sais pas faire. Moi, je suis concentrée sur la stratégie, sur la vision, et j'ai besoin de gens comme vous qui m'aident à aller sur ce champ-là. Et d'ailleurs, avec le spectacle, quand j'ai appris, j'ai une petite anecdote, 3 jours avant la première... C'était donc il y a un an, j'apprends qu'un dirigeant avec lequel je travaille vient au spectacle. Et ça me met dans un stress pas possible parce que j'avais l'impression que j'étais mais aux antipodes de cet homme, même si je travaillais pour des équipes dans son entreprise, mais pas forcément. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, quoi ? Pour moi, je le voyais comme un malade du travail qui faisait que ça. Et donc, j'étais un peu tremblante. Je me dis, bon, allez, Christelle, calme-toi. C'était la première.
C'était une personne parmi d'autres dans la salle.
Je me dis, je vais le perdre. Hein. C'est bon, ce ne sera plus mon client. Et en fait, la relation avec ce client m'a complètement transformée. Parce que ça a été, au final, une vraie rencontre. Parce qu'il est venu chercher chez moi ce que lui n'arrive pas à faire. Tout en ayant conscience de l'importance que ça a pour son entreprise. Et du coup, la relation s'est vraiment développée. Je travaille beaucoup plus avec cette entreprise qu'avant. Et je mesure à quel point j'ai à oser et à continuer à oser à proposer ma façon d'être, voilà, finalement à être avec mes clients, pour les inviter à être. Et c'est comme ça que je crois que nous pouvons œuvrer chacun, chacune avec ce que nous sommes pour amener autre chose dans l'entreprise et aider les hommes et les femmes à se reconnecter justement avec l'être et l'être ensemble.
Un mot qu'on n'a pas encore cité, Catherine Mig, c'est le mot étayage, qui vous tient à cœur, qui fait partie de votre métier de psychanalyste.
Tout à fait. Alors, mais l'étayage, c'est une métaphore très, très BTP. Hein. Quand vous avez une maison, au moins Notre-Dame qui ne tient pas, on va avoir des étayages pour
consolider.
Alors, pourquoi je parle du travail comme un étayage en termes de santé mentale ? Pour toutes les raisons dont on a parlé, c'est que c'est une vraie dimension d'identité. Et donc, il faut que cette dimension-là, enfin, soit solide et bien ancré aussi dans la réalité, hein, pas uniquement dans l'idéal et dans le fantasme, et bien en cohérence aussi. L'étayage, il tient s'il est bien solidement accroché aux autres dimensions. Donc il faut que ce quartier ou cette partie du travail soit très en harmonie, on va dire, avec toutes les autres dimensions de la vie.
Tout en prenant bien garde d'avoir une relation juste, une bonne distance au travail.
Alors, les gens ne vont pas chercher tous la même chose au travail. Et je pense qu'effectivement, le travail sur soi, ça permet de se connaître mieux et de savoir précisément ce qu'on vient chercher dans le travail.
Et la bonne distance que l'on aura chacun.
Et du coup, la bonne distance qu'on va instaurer entre le champ personnel, privé et le travail.
Et le mot qui m'est venu quand je vous ai entendu parler d'étayage et quand vous avez dit justement que ça s'incarne dans cette réalité, c'est le corps. Revenons au corps.
Bien sûr.
Nous avons oublié nos corps.
Et on voit combien ils souffrent mais oui, par le travail.
Mais écoutons nos corps aussi. Écoutons, et ils sont les meilleurs indicateurs pour nous donner nos limites. Et souvent, nous nous en sommes coupés.
Tout à fait.
Pour être dans le faire, dans le mental, dans, voilà, dans les idées.
Ça, c'est intéressant parce que c'est à chaque fois que je travaille avec en particulier des dirigeants, enfin des gens très intelligents et qui sont beaucoup sur l'abstraction la théorie, ils ont l'impression qu'ils travaillent sans leur corps. Et en fait, ça, c'est une vraie réflexion que je partage avec eux en leur disant, mais on ne peut pas travailler sans son corps, parce que le corps, c'est aussi l'expression des émotions qui va vous donner des renseignements très précieux pour comprendre comment vous vivez une situation, ce que vous ressentez chez votre collaborateur ou dans votre équipe. Et vous ne pouvez pas vous priver de cette ressource-là. Donc, mais c'est une découverte souvent pour eux.
Catherine Migue, on voit combien l'importance aussi d'être accompagnée. Il faut être accompagné quand il y a des situations comme ça de souffrance au travail.
Mais je crois que c'est très difficile. C'est très difficile de tout seul dans son coin de se poser les questions. Et puis parce que d'abord on ne sait pas où aller chercher. Et puis ça permet de dans un lieu neutre d'aller plus loin, on va dire, dans le questionnement.
Vous confirmez, Christelle.
Ah, moi je trouve que c'est fondamental et même quand on va bien. Pour continuer à aller bien. Je trouve que nous avons besoin de s'entraider. Justement, nous avons besoin des autres, les uns des autres. Et je trouve que c'est important pour sortir.
Même si ce n'est pas facile au début. Parce
mais
que
c'est
je
très
me
difficile. Ah, bah oui. Non, mais moi, je pensais que j'étais très forte. J'avais 31 ans, que je pouvais tout faire toute seule. Les psys, c'était pour les fous, pour ceux qui n'étaient pas bien dans leur tête. Et bien entendu, depuis, j'en suis largement revenue. Je trouve que c'est fondamental d'avoir des lieux de parole. Justement, ce sont des rendez-vous avec soi-même. Vous parliez tout à l'heure de prendre le temps du vide, le temps du rien. Eh bien, rendez-vous au départ avec un psy, avec un thérapeute. C'est une façon d'avoir rendez-vous avec soi-même. Et l'autre nous aide à sortir de nos cadres de référence et sans doute apporte une bienveillance et peut-être cet amour inconditionnel que l'on n'a pas chez les autres ou une capacité à nous aider, à nous regarder fonctionner, à mieux nous connaître.
Cette relecture des situations.
Oui, oui, moi j'ai été attentive dans ce livre et d'ailleurs le dernier chapitre est assez pédagogique pour expliquer comment on prend rendez-vous chez un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste et qu'est-ce qui se passe dans un rendez-vous, comment ça se passe parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, qui hésitent à faire la démarche. Moi j'ai des patients, des médecins généralistes qui m'adressent des patients et ils mettent un mois et demi à m'appeler. Donc je pense que c'est
pour reconnaître aussi que c'est un vrai traumatisme.
Oui, tout à fait.
C'est aussi la reconnaissance. Oui. C'est aussi, voilà, il y a ce deuil, accepter aussi à ce moment-là que je vais mal, que je suis malade, que j'ai besoin d'être aidée.
Mais c'est la fragilité aussi.
Accepter la fragilité qui a du mal à exister aussi au cœur
de l'entreprise. Ça, c'est clair.
Alors que la fragilité, c'est notre humanité.
Ouais.
Et comment nous remettons de l'humanité au sein de l'entreprise et du coup, je crois que la première personne qui doit se reconnaître, c'est déjà moi-même. Je dois reconnaître ma fragilité et aller me faire aider, c'est la reconnaître. Et je voudrais aussi rajouter, dans le se faire aider, c'est aussi prendre soin de son corps. Attention à ces accompagnements aussi qui peuvent être très dans la tête et oublier le corps. Comment je vais nettoyer mes cellules et mon corps que j'ai maltraité pendant tant d'années.
Allez, un livre à lire, que l'on soit salarié, d'ailleurs manager ou dirigeant. J'ai mal au travail, parcours en quête de sens de Catherine Migue aux éditions François Bourin. Et puis si on passe par Avignon,
au
mois de juillet, ne pas manquer ce
du
spectacle.
Du 5 au 28 juillet, voilà. Venez réussir son burn-out.
Merci infiniment à toutes les deux.
Merci.
Merci.